Ce balado est présenté par la clinique du PEPS de l'Université Laval, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec, avec plus de 50 professionnels dans 15 services. Une clinique accessible à tous, à tous les niveaux, pour les gens actifs. Bon épisode! Bienvenue à cette troisième saison du balado Santé sans rendez-vous par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je m'appelle Raymond Poirier et j'animerai quelques épisodes cette saison. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un médecin, poète et professeur à l'Université Laval, Jean Désy, pour parler de la médecine en région éloignée. Alors, bonjour à toutes et tous. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie du médecin, poète et professeur à l'Université Laval, Jean Désy. Bonjour.
Allô.
Alors, Jean Désy, en fait, on va porter un regard aujourd'hui sur votre parcours, sur votre vision également de la pratique médicale. Une pratique qui a commencé, en fait, dans votre cas, dans les années 70, enfin 78, du côté de la Côte-Nord. Et donc, on voyait que dès le départ, dans le fond, votre pratique a été influencée, a été incarnée, a été intéressée par le Nord, au final, que ce soit petit ou grand.
Ben en fait, ce que je pourrais dire après 46, 47 ans de pratique, c'est que sans le Nord québécois en particulier, sans la Côte-Nord, sans le Moyen-Nord Cree et sans le Grand Nord Inuit, le Nunavik, ma pratique médicale aurait eu un sens limité. J'ai fait de l'urgence pendant 10 ans, pendant que j'étudiais en littérature puis en philosophie à Laval. Mais, grosso modo, l'univers de la nordicité m'a fasciné. Et je suis allé sur la Côte-Nord pour des raisons strictement irrationnelles comme médecin, jeune médecin, à cause de Gilles Vigneault. En fait, j'aimais Gilles Vigneault. J'aurais même pas pu dire quel type de poésie faisait, là. Et je suis allé à Havre-Saint-Pierre. Et le premier voyage que j'ai fait en motoneige, c'est d'aller à Natashquan, quelques mois après être arrivé là, à cause de Gilles Vigneault. Donc, j'ai souvent vécu, pour des raisons irrationnelles, beaucoup plus qu'irrationnelles, c'est que le Nord est majeur dans mon existence médicale.
Oui, puis le Nord, puis aussi la pratique littéraire, en fait, je pense qu'on comprend bien qu'il y a des gens de la sphère artistique, dans le fond, qui ont influencé votre pratique médicale. Et la sphère artistique est aussi, je pense, l'autre dénominateur commun qui risque d'être mis en évidence dans la conversation qu'on va avoir. Votre pratique médicale nordique, qui a influencé votre pratique littéraire, et les deux se sont nourris mutuellement pour développer une vision artistique et scientifique, au bout du compte, de la médecine.
Ben, j'aime ça vous entendre. C'est comme un extraordinaire résumé de ce que peut être ma vie jusqu'à maintenant. En fait, j'ai voulu étudier en littérature pour enseigner à temps plein. J'ai continué à pratiquer la médecine pour toutes sortes de raisons techniques. Je suis surtout pas déçu. Mais le grand moment mystico-ésotérico, quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, c'est le 2 janvier 90, lorsque je suis arrivé pour la première fois dans la toundra à Powinitouk pour faire du dépannage médical. Là, j'ai été plusieurs mois d'affilée chez les Inuits sur la côte de la baie du Thon. Et tout à coup, là, ma vie a changé. Mais pour répondre à votre question, c'est certain que j'ai commencé à écrire lorsque j'ai étudié en littérature. Et la nordicité, le monde du Grand Nord et du Nord, le monde autochtonien, mais aussi non autochtone, le monde de Chibougamau, le monde des coureurs de bois, a eu une telle influence que sans cette nordicité-là, en fait, est-ce que j'aurais écrit? Pas vraiment. Et je dirais, moi, que si ça vaut la peine, s'il y a quelques livres qui en valent la peine, ils sont tous issus de cet éblouissement que j'ai vécu et que je continue à vivre grâce au Nord. L'amalgame médecine, littérature, écriture, nordicité fait en sorte que l'un aide à l'autre. Et je continue à pratiquer la médecine pour des raisons pratiques, pour des raisons techniques, puis parce que ça me rend fou de joie d'aller pratiquer, mettons, à Havre-Saint-Pierre, où j'ai commencé ma pratique médicale. J'étais là au mois d'août. Entre autres, parce que les gens d'Havre-Saint-Pierre, les Cayens, je les aime beaucoup. Je me sens très, très, très... En tout cas, ils sont pas talents pour moi. Puis aussi, j'aime beaucoup l'univers Innu. Les Innus, les Autochtones de la Côte-Nord, là, qui sont pas des Inuits, les Innus sont adorables. Et les femmes Innus en haut de 60 ans, c'est l'endroit dans ma vie où j'ai dit le plus de sottises en pratique, parce qu'on peut faire des blagues. On dit pas n'importe quoi, mais des grosses blagues avec des madames Innus, ça se fait. Je suis pas certain qu'ailleurs, on peut faire autant de blagues. Ça m'a rendu fou de joie dans ma vie. Avec l'écrit aussi, avec les Inuits, mais donc les femmes autochtones, entre autres, d'un certain âge, en haut de 60 ans, c'est fou comme quand les choses sont réglées, tout est possible dans l'humour.
Oui, puis j'imagine que ça sous-tend aussi cette culture-là, cette réalité-là, dans la dynamique aussi de travail, entre autres, autant dans le drame que dans les joies, autant justement le rire peut s'insérer, si on peut dire, dans les moments dramatiques, dans les moments plus difficiles, sans enlever de porter au drame à proprement parler.
Tout à fait, c'est un élément majeur. Je suis obligé de citer Serge Bouchard qui parlait du peuple rieur. C'est certain que dans ma vie, considérant que c'est pas toujours rose-rose faire de la médecine, il y a des accidents, il y a des gens qui meurent de cancer, il y a des suicides. Dans le Grand Nord, actuellement, les Inuits vivent des difficultés majeures depuis 10-15 ans, un taux de suicide qui est 10 fois supérieur à celui du Sud. Mais, le simple fait de pouvoir rire, pas rire des autres, mais se servir de l'humour, fait en sorte que tout à coup, être soignant, pas seulement médecin, tout soignant est dans un état très différent de celui du Sud, où là, les choses sont plus carrées, où les blagues salaces sont moins acceptées. En tout cas, quelque chose dans ma vie, moi, ma mère faisait des blagues, là, elles m'ont marqué, puis j'ai pu continuer à faire des blagues. Et c'est entre autres pourquoi je pratique encore. J'ai la possibilité de faire des blagues, bien que mon devoir, c'est de faire mon possible pour soigner le monde, vous me suivez. Mais les Autochtones ont un sens de l'humour. Puis là, je réfléchis depuis plusieurs années là-dessus. Je pense qu'il y a un lien important avec la psyché autochtone qui se sert de l'humour pour survivre et vivre et amadouer le drame, même la mort.
Et là, on va faire un pas de recul, parce qu'on a commencé au départ, dans le fond, 78, Port-Cartier, donc premier mandat médical, appelé là un peu par les mots de Gilles Vigneault, vous le disiez tout à l'heure, Jean Désy. Qu'est-ce qui vous avait attiré, peut-être, d'entrée de jeu, vous y êtes arrivé comme médecin généraliste, comme médecin familial, qu'est-ce qui vous avait amené vers, justement, cette décision d'aller vers une médecine qui est plus généraliste que spécialisée?
Ah, c'est une belle question. En fait, j'ai jamais trop réfléchi à ça. J'ai étudié en médecine. Moi, mon héros, c'était Che Guevara. Je n'avais pas d'autre raison que de dire, tiens, Che Guevara est mon héros. C'était possible pour moi d'aller étudier en médecine. J'ai étudié là, puis j'ai seulement des immenses souvenirs de mes amis que j'ai eus. J'ai dirigé la revue Concert 3 ans. Quand j'ai commencé à pratiquer, c'était hors de question, mais pour des raisons encore là, sur lesquelles je n'avais pas beaucoup réfléchi, que je pratique en ville, dans un bureau en ville, hors de question. Plus j'étais loin, plus j'étais sur la côte nord au point de départ, c'était le nord que j'avais connu, plus ça me convenait et ça c'est resté vrai. L'intuition que j'avais, qui était surtout pas, a pris forme tout au long de ma vie. C'est un lieu assez magique, la toundra. Le problème, c'est qu'on peut pas s'y rendre en auto. On peut se rendre jusqu'à Chicxulub en auto. Mais dans ma vie, moi, ça a été à ce point puissant. Faut que je dise merci à la médecine d'avoir pu y aller des fois 12 fois par année là, pour aller faire du dépannage, parce que j'ai fait du ski de fond, j'ai été à la chasse au caribou, mais ça m'a inspiré à ce point que j'ai voulu faire de la haute montagne. J'ai fait le Mont Blanc, je suis allé marcher au Népal parce que j'ai pu reproduire un peu à la verticale ce que je ressens à l'horizontale dans la toundra. Il y a quelque chose... Je l'ai exprimé dans certains recueils de poésie, entre autres, il y en a un qui est moins manqué que les autres, là, moins raté, là, au nord, mon amour, mais la toundra et l'espace nordique, pour des raisons que je ne pourrais pas trop expliciter, m'émeut profondément. Est-ce que c'est à cause de Louis Edmond Hamelin que j'ai lu au complet le dictionnaire des mots du Nord de Louis Edmond, là, comme utiliser des mots du Nord comme Inukshuk, ben c'est un mot inuit, là, mais Louis Edmond en parle, pic-crac, puis il ne faut jamais oublier que nordicité, c'est un mot inventé par un Québécois qui est traduit à peu près toutes les langues, là. C'est quand même pas rien. Avant Louis Edmond, il n'y avait pas de mot pour parler de la nordicité. Ça me touche.
Et puis en même temps, j'ai l'impression, parce qu'on parle évidemment d'une approche, et on va parler beaucoup de médecine au fil de notre dialogue, et nécessairement, de ce que j'entends et de ce que vous semblez dire aussi dans vos écrits, c'est que, veux pas, ben, la pratique médicale est influencée par le territoire, est influencée par les gens qu'on va traiter, qu'on va soigner sur le territoire, parce qu'au final, c'est pas un corps qu'on soigne, c'est un être humain, un être entier, donc qui est lui-même imprégné de ce territoire-là et de la culture dans laquelle il a grandi.
J'aime ça beaucoup. Excellent. C'est important ce que vous me dites là, parce que ça me tient à cœur comme jamais. Et depuis quelques années, moi, j'ai la chance d'enseigner en médecine à la Faculté de médecine à Laval depuis 30 ans et plus. Ces années-ci, comme année, je donne des cours du mieux que je peux. Je donne les cours d'intégration. J'avais 2 groupes de 10 cette session-ci. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de parler d'éléments d'âme. Pour moi, l'âme, c'est l'union de la psyché et du soma. C'est William Blake, un poète anglais, qui m'a appris ça. C'est ma vision. Et soigner, c'est une âme qui rencontre une autre âme pour lui donner un coup de main. Et un soigné, c'est deux humains, deux êtres qui s'entraident et qui ont confiance l'un dans l'autre. Et pour revenir à ce que vous disiez, le territoire, les lieux, les gens qui habitent le territoire modulent de façon extraordinaire la façon d'aborder le soin. Je vais aller vite, là. Si j'ai été heureux dans ma vie, je l'ai été surtout grâce aux Nunavik, grâce aux Inuits et grâce à mes collègues des Canadiens français souvent, des infirmières, des dentistes, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, d'autres médecins, parfois des spécialistes, un psychiatre, mais en dispensaire, dans des villages, le plus gros où j'ai vécu, c'est Koudjouak, mais dans des villages parfois de 2000 personnes, en dispensaire, donc, où la médecine se faisait par tout le monde. Les infirmières, avant même qu'il y ait des infirmières cliniciennes, avaient un rôle élargi. Et ça m'a donné une joie folle, moi, d'être en équipe. Donc, de travailler à salaire avec tout le monde et d'avoir des travailleurs sociaux qui s'occupent d'un schizophrène décompensé qui arrivait avec une carabine qui tirait dans un skidou, là. Je caricature en apparence, pas du tout. Ils sont pas juste comme ça, là, mais l'équipe est bien plus fondamentale que cette espèce d'idée de supériorité où là, il y a le spécialiste, puis après ça, il y a le généraliste, puis le médecin de famille. Non. Ma vision du médecin de famille, c'est que, comme médecin, moi, j'ai toujours travaillé loin, en région, avec des équipes. Là, je fais du dépannage à Havre-Saint-Pierre ces années-ci. Là, ben, à l'urgence, là, je me sens en équipe. Il n'y a pas encore un rôle élargi des infirmières, mais toutes les infirmières qui sont là pourraient, demain matin, faire ce que 80% des infirmières font dans le Nord, voir les patients, diagnostiquer les otites. Pourquoi je pense comme ça? C'est parce que quelque part, le soin est automatique. Je veux dire, quiconque s'est cassé un bras arrive à l'urgence. Toutes les mères de famille avec un enfant de 5 ans qui a mal à l'oreille, il arrive à 5 heures le vendredi, puis à 5h15, l'infirmière le voit, puis à 5h20, il y a une prescription. Là, puis vous me suivez quelque part, cette vision très CLSC que j'ai vécue au début de ma pratique me semble celle de l'avenir. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience que la population vieillit, qu'il y a toutes sortes de difficultés autres le long du Saint-Laurent, puis qu'en plus, les moyens technoscientifiques ont évolué à ce point que tout est devenu extraordinairement plus complexe. Et jamais de ma vie, je nierais la valeur de la technoscience pour traiter d'une tumeur cérébrale puis guérir le patient qui faisait des convulsions. Mais grosso modo, la pratique de base pour soigner du monde, et en particulier soigner des malades psychiatriques ou des anxio-dépressifs, ça se fait en équipe. Et c'est là qu'on devient extrêmement efficace. Et c'est là que la vision du médecin de famille est nécessaire. Non. Je veux dire, on est ensemble. Et moi, appelle-moi à 2h du matin qu'il y a un bébé qui ne respire pas. Mais autrement, là, je veux dire, c'est comme ça que j'ai vu la médecine, les soins, de la manière la plus appropriée du monde. Puis j'aime mieux dire les soins parce que un psychologue, moi j'ai travaillé pendant des années à Bognotec avec un extraordinaire psychologue, là. Un travailleur social là, vis-à-vis de quelqu'un qui a un problème de santé mentale, là, c'est précieux en ciboulette. Vraiment, vraiment, parce que moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, s'il est décompensé, je vais l'endormir pendant 24 heures. Je vais le transférer en psychiatrie. Mais les vrais soignants des gens qui ont des problèmes psychiatriques, c'est les gens qui les aiment. Évidemment, je peux aider, moi, avec un diagnostic, mais c'est les proches aidants, c'est les grands-mères, c'est un psychologue, c'est parfois un psychiatre, évidemment. Vous me suivez? Quelque part, là, dans notre univers actuel, en 2024, les problèmes de santé mentale et d'anxio-dépression dépassent probablement bien des problèmes d'ordre infectieux là, qui sont facilement soignables. Je veux dire, voici une richesse de la médecine contemporaine. Il n'y a plus grand monde qui meurt de pneumonie à 22 ans. En 1912, c'était pas pareil. Mais il y a d'autres lieux où là, il faut vraiment s'associer. Donc, je finis là-dessus. Le Nord, la Norditude, le travail en dispensaire, chez les Cris comme chez les Inuits, m'a convaincu, moi, que où j'étais heureux, c'était en équipe.
Et ça nous permet, je pense, ça nous aide de distinguer un peu, parce qu'encore là, je parlais de l'abstraction du Nord, elle est vraie un peu sur le territoire qu'on a vu en photo, mais qu'on percevra nécessairement en vrai. Elle est vraie aussi, donc, dans la dynamique de dispensaire, par exemple, versus le groupe de médecine familiale. Donc, nous, ce qu'on connaît au Sud, dans le fond, c'est le GMF comme tel. De ce que je comprends à vous entendre, Jean Désy, le dispensaire et la réalité du soin ou de la dynamique de travail, il y a des similitudes, mais il y a aussi des grandes différences, là.
Puis en même temps, là, j'ai tellement seulement travaillé toute ma vie en région, puis j'ai fait de l'urgence pendant 10 ans à l'hôpital Chauveau quand j'étudiais en littérature et en philosophie, que je peux pas beaucoup parler intelligemment de le GMF. J'ai pas beaucoup de contacts avec les médecins ailleurs que dans le Nord. Ça a sûrement sa pertinence. Faut faire attention aux terminologies. Mais quelque part, ce qui m'apparaît essentiel, c'est que quelque patient que ce soit, sur le mode socialiste et non pas capitaliste seulement, puisse être soigné de la meilleure façon possible et qu'il puisse avoir des soins sans que ça prenne un an et demi à avoir une échographie. Là. Quelque part, on sent qu'il faut absolument ouvrir le spectre des soins potentiels. Puis, la médecine habituelle, ça se fait, ça se pratique par plein de monde. Je veux dire, puis j'exagère pas, là, dans les dispensaires, j'ai toujours vu 2, 3, 4 vieilles madames de 70 ans et plus se tenir là pour donner un coup de main aux femmes qui arrivent avec 4 enfants. Puis,
c'est ça, il faut avoir l'infirmière, la dentiste, le médecin, la grand-mère.
Pas beaucoup de grands-pères, mais les grands-mères, je veux dire, je caricature en apparence, mais je veux dire, les grands-mères, dans le monde des soins, sont des personnages majeurs, si on veut y croire. Est-ce qu'ils doivent être payés? Les grands-mères que j'ai connues, là, ce qu'ils avaient envie, c'est de boire du café, puis faire des rigoler, d'amener chez les Inuits là, du beluga cru, là, puis faire des farces, puis après ça, d'être extrêmement utile. Ça a l'air caricatural, ce que je dis là. Évidemment, j'ai bien conscience que ça n'a pas beaucoup de valeur pour l'instant avec tout ce qu'on dit sur les difficultés, sur les soins, sur aussi le fait indubitable qu'une population vieillissante, pas juste au Québec, partout dans le monde riche, fait en sorte que les soins à donner diffèrent. Il y a une augmentation de la concentration de soins qui fait que c'est pas simple. Mais je pense, moi, que de travailler avec humilité et non pas orgueil, de faire son possible et de garder la possibilité de blaguer. Mais vous m'entendez, là, je veux dire, on fait pas une blague sur quelqu'un à qui on vient de trouver un cancer du poumon, là. Mais tout peut devenir plus facile si on reçoit les soignés avec une réelle sérénité. Et évidemment, moi, je dis aux étudiants, là, je fais mon coco un peu comme il était aîné, si vous vous rendez compte que vous n'aimez pas les patients, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas trop souvent en situation de non-amour, il faut que vous ayez le courage de changer de métier. Ça, c'est fondamental pour tous les métiers du monde. Si quelqu'un haït ce qu'il fait, quand bien même qu'il gagnera 1 milliard par seconde, là, on se calme. Je caricature un peu, là, 1 milliard par seconde. Il y en a rien qu'un qui fait ça, c'est comme salaire.
Mais ça nous ramène en fait à la dimension humaniste que j'ai l'impression que vous portez dans votre vision de la médecine, dans votre vision du soin aussi. Puis nécessairement, en fait, de ce que j'en comprends, puis je reviens un peu à ce qu'on disait au départ, dans le fond, il y a le côté territorial, donc l'influence du Nord, de cette approche de santé-là, nécessairement a dû aussi vous orienter ou voir la valeur, la richesse de l'aspect communautaire au sens de communauté du soin, à proprement parler.
Oui, j'aime ça beaucoup. C'est un terme très, très facile, mais très vaste et très difficile en même temps, le mot humaniste. Qui voudrait se dire non humaniste, là? Je veux dire, parlons des politiciens dans le monde, là. Mais évidemment, l'aspect communautaire, communautariste, la vision socialiste, il faut oser dire ça, des soins dispensés dans certains pays, encore au Québec, c'est encore vrai, là. Malgré tout ce qu'on peut dire contre le système, si quelqu'un se ferait faire par un autobus sur le bord Laurier, quel que soit son statut, quel que soit son argent, il va être opéré dans les 20 minutes qui suivent au CHUL. Personne ne va lui demander son nom. On espère qu'il a sa carte d'assurance maladie, mais le système est extraordinaire dans l'urgence à ce moment-ci. Il faut, à tout prix, travailler fort collectivement pour maintenir ce système de collectif d'accès, surtout quand il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Le danger majeur, c'est une vision capitaliste associée à la pharmaceutique et associée aux compagnies d'assurance qui tend à déraper. Et là, il faut absolument batailler. Et là-dessus, mais je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Ce que j'aurais envie de dire, il faut que les médecins y participent, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, moi, c'est que osons croire à la valeur de ce qui s'est passé à la fin des années 70, quand tout à coup, il y a un régime public de santé qui a été établi, pas juste au Québec, là. Wow! Quelle différence extraordinaire par rapport à ce qui se passait avant. Donc, à mon point de vue, il faut garder pied dans cette foi que soigner, c'est une qualité, puis être soigné, c'est nécessaire quand on a besoin d'être soigné, puis il faut que ça se fasse avec le plus de bonté et le plus de confiance possible en dehors des lois du marché et en dehors des lois du consumérisme. Ça, je suis persuadé, ça, l'antithèse même du soin, c'est le profit.
Et j'aimerais faire face à tout ce qu'on dit, parce que là, on va du sud vers le nord, mais vous l'avez dit, je pense, et Hamelin le bien défini aussi, il n'y a pas un nord, il y en a plusieurs, il y a le petit, le moyen, le grand. Et à l'intérieur de ces zones-là, ben, il y a ce qu'on pourrait appeler des territoires éloignés versus des territoires isolés, où on se retrouve un peu, j'imagine, dans d'autres réalités ou dans d'autres contextes avec d'autres défis. Donc, est-ce qu'il y a une différence peut-être un peu entre ces territoires-là ou entre l'éloigné et l'isolé?
Oui, ça aussi, c'est excellent comme question. En fait, le Québec est fait de trois zones. Une zone extraordinairement urbaine le long du Saint-Laurent, je caricature un peu, là. On s'entend, puis Montréal est pas mal plus populeux que Blanc-Sablon. Il y a des régions éloignées, accessibles. Je veux dire, on peut se rendre en ski à Blanc-Sablon, là, mais là, il n'y a pas de route encore, mais il va y en avoir une bientôt. Et c'est quand même loin, Blanc-Sablon. Là. C'est au bout de la Basse-Côte-Nord, là, collé sur le Labrador. La Gaspésie est quand même une région éloignée. Puis en même temps, là, j'ai des amis à Gaspé. Là. C'est une région éloignée, oui, si on parle en fonction de Québec puis de Montréal. Mais les Gaspésiens, est-ce qu'ils se sentent loin? Je veux dire, les gens de la terre, des îles de la Madeleine, tout est toujours relatif. Là. Puis après ça, il y a des régions isolées, entre autres le Nunavik, parce qu'il n'y a pas de route qui se rend au Nunavik. Mais le Pays Cree, le Nuchimieyou puis le Eyuichi sont atteignables en auto. C'est loin à la Chicxulub, mais ça, on peut se rendre à Chicxulub le long de la baie de James. Mais ce Québec isolé et éloigné est très peu peuplé. Ben, c'est 100 000 personnes à peu près, jusqu'à peut-être un peu plus depuis quelques années, là, par rapport aux millions de personnes qui vivent à Montréal puis à Québec. On sent que c'est des situations sociologiques qui n'ont rien à voir. C'est que la pratique médicale, quand tu es à Havre-Saint-Pierre, a rien à voir avec la pratique médicale à Longueuil, mais rien. Puis en même temps, est-ce que tu as besoin d'être urgentologue? Puis d'avoir fait 4 années d'urgentologie pour pratiquer la médecine d'urgence à Havre-Saint-Pierre? Non. Mais si tu es urgentologue, tu peux être extraordinairement précieux à Québec ou à Montréal dans un centre hospitalier. Je veux dire, il y a des différences. Puis est-ce qu'on a besoin de spécialistes? Les psychiatres sont probablement la spécialité la plus nécessaire ces années-ci à cause des difficultés psychiques d'une partie importante de la population. Mais est-ce qu'il faut qu'un psychiatre passe à toutes les 2 semaines à Blanc-Sablon? Non. En fait, l'équipe, il y a des infirmières. Moi, j'ai connu une infirmière dans le Grand Nord là, qui s'est spécialisée à soigner des TPL, les troubles de personnalité limite, pendant des années, par groupe, comme les alcooliques anonymes, là, puis elle en a guéri. Ou en tout cas, elle en a amélioré. Faut le faire. Voici une infirmière extraordinaire, qui a comme mandat de s'occuper de troubles psychiatriques qui, jusqu'à maintenant, font partie des troubles difficiles là, à soigner. Wow, chapeau. C'est que si elle me demande, hey, Jean, là, elle a mal à la gorge, la madame, là, est-ce que tu avérais parce que je pense qu'elle fait une amygdalite? Oui, ça me fait plaisir.
Et dans tout ça, en fait, parce que j'ai l'impression que même dans l'isolé, il y a une hiérarchie ou une dynamique différente dans la mesure où si vous êtes à Coudjouac ou dans un centre un peu plus urbain, si on peut dire, avec un peu plus d'habitants, parce que je pense qu'on ne peut pas nécessairement parler d'urbanité non plus, c'est pas le bon terme, mais versus d'autres, des petits villages ou des petits hameaux, encore là, il y a une différence entre les endroits où on visite puis l'endroit où j'imagine il y a un dispensaire plus fixe, dans le fond.
Tout à fait. Il y a des villages au Nunavik où il y a seulement 2 infirmières. Il n'y a pas de médecin. Le médecin y va tous les mois, quelques jours. Il y a les 2 villages où il y a des hôpitaux au Nunavik, c'est Pouvenetouk sur la côte de la baie du Son et Coudjouac, qui est au bord de la rivière Coxsowak, un peu au sud de la baie d'Angava. Voici la réalité inuite. Mais pour... Je ne sais même plus comment... Moi, quand j'étais là, il y était 15 000, là, ils sont peut-être 17 000. Là, la population grandit. Les difficultés actuelles du monde inuit depuis 10-15 ans sont surtout d'ordre sociologique. Il y a une énorme... un énorme problème lié aux drogues et il y a un suicide qui est, je veux dire, les régions nordiques du monde entier et le monde inuit québécois souffrent d'états suicidaires, mais de façon remarquable, triste. Pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons, puis les Inuits eux-mêmes en connaissent des réponses, mais quelque part, ça, c'est une réalité particulière, qu'il faut dire. Mais en même temps, puis il y a des villages... dans le bas du fleuve, où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière non plus, les gens prennent leur auto. Je veux dire, plus tu es loin au Québec, moins ça te fatigue de prendre ton auto pour aller au cinéma. plus tu es dans une grande ville, plus tu dis, ah, hey, on fera pas 15 minutes de toi ce soir, là, je pense qu'on va rester à la maison pour écouter Netflix.
Oui, puis j'imagine, en fait, on parle d'auto, mais ça, c'est j'imagine une différence entre le nord et le sud, où ben, ici, par exemple, si vous allez faire un moment de travail à l'hôpital ou à la faculté de médecine, ben, vous allez en automobile, vous prenez les transports. Si vous êtes dans le nord, c'est soit l'avion ou le canot, à la limite.
Ben, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire du canot, comme j'ai descendu la rivière Coxsack, pas la Coxsack, la Corocque, du mont d'Iberville, qui est à la frontière du Labrador jusqu'à la baie d'Ongava. Mais en général, on voyage en avion.
Oui, puis entre les lieux, entre les endroits, bien, j'imagine, on débarque, on arrive sur le territoire, on est sur la piste d'atterrissage, on marche, on circule, on se déplace. Vous parliez tantôt de l'expérience que vous avez vécue en 90. Bien, t'sais, j'imagine que dès le moment où on descend de l'avion ou dès le moment où on observe où on est en train d'arriver, qu'on on peut pas ne pas avoir conscience du territoire qu'on est en
Totalement.
Train de découvrir.
C'est certain que si on veut vivre quelque chose d'unique dans les expériences géographiques dans le monde, aller dans la toundra, comme aller en Sibérie, comme aller au nord de la Norvège, c'est une expérience majeure pour des raisons climatiques, pour des raisons géographiques, mais aussi pour des raisons mystiques. J'ose le dire, la toundra, vivre un blizzard qui dure 3 jours de temps dans la toundra quand les vents, il neige même pas, là, c'est les vents sont apportés de 1000 km là, par des vents de 100 km/h, là. C'est qu'il y a une zone neigeuse qui mesure à peu près 20 mètres de haut, là, ça c'est le blizzard qui dure 2, 3, 4 jours. Aïe aïe, ça crée des solidarités dingues, là. Puis en même temps, moi ça m'est arrivé 2-3 fois de ramper dans le blizzard pour aller rejoindre une infirmière qui m'avait appelé en disant « il y a un bébé qui respire pas bien, là, fallait que tu viennes ». Mais tu sais, voici des défis d'ordre géographique et climatique qui en valent la peine. Puis moi, j'ai fait le tour du Québec en skidoo un jour avec un ami mécanicien. On avait des guides inuits, puis on n'a pas eu de guide au sud de Koudjouak, c'est qu'on a manqué d'essence entre Koudjouak et Shefferville, là. Puis là, on n'est pas mort, mais on voulait devenir riche et célèbre grâce à la célébrité, là. Puis, puis finalement, le journaliste qui nous suivait a décidé de ne plus nous suivre quand on a manqué d'essence. Mais c'est le plus grand voyage de ma vie pendant 2 mois, puis j'ai couché dans une tente au sud de Koudjouak à moins 44. C'est mon plus froid dans la vie.
Et à travers la conversation, je pense qu'on a mis de l'avant pas mal d'éléments distinctifs entre le Nord et le Sud, mais j'aimerais poser de front la question, là, pour vous, les éléments peut-être les plus essentiels qui différencient peut-être l'approche au Nord versus l'approche au Sud en matière de soins, en matière de médecine?
Ça, c'est une question à 10 000 piastres, là. Je dirais, moi, que plus on est au Nord, moins il y a une population trop abondante, plus on est en famille, plus on connaît les gens, plus la confiance est établie d'emblée parce que le beau-frère sait qu'on a soigné son quelqu'un de la famille, plus le rapport de soins est facilité. Moins il y a de danger aussi de poursuite, moins il y a d'anxiété face à cette espèce... Le légalisme est pathogène dans le monde des soins. On va faire un test parce que des fois qu'on passe à côté. Je veux dire, moi, dans le Grand Nord, ça ne me gêne pas du tout de dire que dans un endroit où il n'y avait pas de radiographie, j'ai souvent traité cliniquement des fractures non déplacées en revoyant le patient un mois après en disant « ta fracture est guérie, là. » Est-ce que ça me faisait de la peine de ne pas y faire prendre l'avion pour aller passer une radio? Pas du tout. Mais évidemment, le patient avait confiance en moi. Moi, j'avais confiance au patient. Tout est dans l'ordre de la confiance. La différence entre le Sud et le Nord, c'est la différence entre un milieu familial où là, on peut demander à quelqu'un. Puis si le patient, même dans le Grand Nord, il dit « Hey, là, si tu ne m'envoies pas passer une radio, je te poursuis. Vas-y, moi, t'envoyer pas. » Tu vois, je caricature encore un peu, là, mais plus tu es en état d'urbanité importante, plus la technoscience prend l'influence, a une influence majeure, plus ça augmente le temps d'attente, plus ça complique les choses. Comment faire pour rendre les choses moins compliquées? C'est certain qu'il faut croire à nouveau à cette espèce de relation d'âme à âme. Il faut, puis après ça, ben, il n'y a pas juste des médecins officiels qui ont un cours de médecine qui peuvent soigner. En fait, tous les humains sont appelés à être le soignant de quelqu'un. Une mère de famille, là, quand son petit garçon est tombé puis s'est éraflé le genou à 4 ans, là, c'est une soignante remarquable. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait l'urgence de faire un pansement? Non. Je veux dire, c'est presque idiot ce que je dis là, mais faut que tout le monde ait bien conscience qu'on est toujours un jour le soignant de quelqu'un et le soigné de quelqu'un d'autre. Et ça fait partie d'une vision plus socialiste que capitaliste où on dit « Ah, Là, je t'ai regardé, là, de moi, 5 piastres. Non, on arrête un peu.
Et ça, sur ta différence nord-sud, en fait, j'ai l'impression que, du moins de l'extérieur, qu'il y a quand même un certain roulement des équipes de santé. Donc, il y a des gens qui sont parfois sur la durée, qu'il y en a d'autres qui sont là de passage aussi. Donc, j'imagine que ça teinte ou ça change un peu la dynamique de travail. Dans le fond, comment ça fonctionne un peu, ces éléments de roulement-là?
C'est ça. Je pense, moi, que plus on croit à l'équipe, plus c'est possible que l'équipe, il y ait des gens qui changent. Cette idée que c'est toujours le même pendant 36 ans qui va nous voir, là, l'idée d'une équipe fait en sorte que c'est pas nécessaire que ce soit toujours quelqu'un qu'on a connu intimement qui va nous donner la prescription ou qui va nous recevoir. Mais il fait partie d'une équipe, il y a d'autres personnes. C'est que dans le Nord, il y a une espèce d'immense mouvance. Les patients aussi. Moi, à Waswanipi, j'étais là pendant 25 ans. Là, c'est un village Cree, là, pas très loin d'Abitibi, là, entre Chibougamo et Sainte-Terre. Il y a 2000 Cree, là. Il y a des périodes l'été où il y avait à peu près les deux tiers de la population était partie. C'est génial de travailler dans ce temps-là, parce que j'allais à la pêche tous les soirs à 4 heures. Tu sais, je veux dire, je caricature un petit peu, là, mais c'est vrai. En fait, les cris sont des nomades. Ce dont il faut parler aussi, c'est que moi, j'ai découvert que j'étais un nomade dans l'âme grâce aux Innus et aux cris. Avec mon contact avec eux, j'ai lu sur le nomadisme, ben, le monde autochtonien, comme le monde nordique, est nettement plus nomade que le monde sudiste qui est sédentariste. La société dans laquelle on s'insère est sédentaire. Mais dans un monde nomade, les nomades s'attendent pas à ce que ce soit toujours la même personne qui reçoive. Puis des nomades, là, ça s'en va, ça se promène. J'ai déjà vu des cris avec un monsieur puis une madame de 77 ans, avec 6 enfants, puis venir me voir en disant « Fais-nous une prescription, on part pour 6 mois, on s'en va dans 3 chalets sur le bord de la baie de James, puis après ça, on va aller à Ottawa, puis après ça, on va revenir. » Hey, voici, je caricature pas, là. Le monde autochtone, Cree, Atikamekw et Innu, est un monde nomade. C'est que chez les nomades, évidemment, les structures comme les relations n'ont pas la même... On est aux antipodes de la vision sédentariste. Et là-dessus, je ne peux pas parler contre les sédentaires, mais le monde dans lequel je dois m'insérer est un monde sédentariste. Moi, comme nomade, mais c'est entre autres pourquoi j'ai plus de joie à me promener chez les nomades.
Et puis on parlait tantôt, en fait, des éléments culturels qui vont impacter la nature du soin ou de la relation qu'on va tisser. Bien, nécessairement, l'élément du nomadisme qui est là, qui est présent chez les peuples du Nord, bien, nécessairement, ça fait partie de ces éléments-là qui vont teinter aussi la pratique, l'approche, la relation autour du soin.
Tout à fait. Puis aussi, il faut que j'ajoute qu'il n'y a pas juste des Innus ou des Cree ou des Atikamekw qui sont des nomades. Il y a un fonds canadien-français issu d'un lien profond qui a duré pendant des centaines d'années avec les Autochtones, qui est nomade. Puis en même temps, il y a un combat à mener contre des forces sédentaristes qui disent « Si tu t'en vas, tu perds ta job. Si tu t'en vas, tu ne seras plus soigné. » Non. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les perspectives, le champ de soins, mais en tenant compte aussi que les Canadiens français de Chibougamau sont souvent des nomades, bien qu'il y en ait des sédentaires, des nomades partout, mais l'esprit nomade est un esprit particulièrement nordique au Québec.
Et à travers ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, puis on s'amuse à faire des comparaisons, à voir un peu qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche comme ça du côté du Nord. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des approches et qu'il y a des choses qui se passent au Nord auxquelles le Sud devrait peut-être un peu plus apporter attention, auxquelles le Sud devrait peut-être s'inspirer et qui pourraient être appliquées ici avec un succès ou un impact?
Ben là, je vais oser dire ce que je pense, là, face à cette question-là. Là. Demain matin, là. Mais là, j'arrête là, là. À Québec, il y aurait 50 CLSC, comme j'ai appris à ce que c'était, un centre local de services communautaires qui serait créé pour rendre accessibles les soins à la population en dehors des hôpitaux, là, avec toutes sortes de monde, là. Des médecins de garde, des infirmières cliniciennes ou des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, un dentiste, un pharmacien sur place, des grands-mères. Bien là, tout à coup, on vient de transporter la vision que j'ai qui m'a été apportée grâce au Nord en Sud. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que t'as-tu besoin d'un médecin de famille? Non. Ton petit garçon s'est cassé un doigt, là. Bien là, tu vas au CLSC à Beauport, là. Puis là, ben, tu t'assois, là. Puis 20 minutes après, tu vois quelqu'un. Je caricature un peu, là. Mais c'est comme ça, dans ma vision des choses. Mais puis après ça, ben il y a un radiologiste ou il y a une équipe qui est capable de faire des échographies, là, puis en tout cas. Je pense, moi, que c'est comme un retour en arrière apparent, mais ou bien on accepte une réelle révolution, ou les choses vont aller en se gâtant. Mais ça, j'arrête de parler comme ça. Là. Je parle comme quelqu'un qui est un... Parce que je pense que le capitalisme est honté. L'envie de faire du profit est antinomique par rapport aux soins qui peut être donné à quelqu'un qui est malade.
Et nécessairement, l'expérience du Nord, au fil du temps, en fait, je sens une grande passion de votre part autour de ça. Est-ce qu'on parle aussi, jusqu'à un certain point, que le territoire lui-même aussi amène une vocation, un peu comme on dit que la médecine est une vocation, mais le Nord
oui,
est-il une vocation aussi, oui?
Oui, c'est certain que... Oui, l'aspect vocationnel, moi, j'aime ça, ce mot-là, parce qu'à mes étudiants en médecine depuis 30 ans, là, à tout moment, là, je les interromps, je leur donne l'enseignement qu'ils ont besoin, là, quand ils veulent apprendre la différence entre quelqu'un qui fait un problème de convulsion généralisée ou limitée, là, mais c'est important absolument de tenir compte de la confiance, puis de tenir compte d'éléments qui sont plus subjectifs qu'objectifs, dans l'ordre de la pratique. Et la vocation est essentielle, mais bien connaître ce qu'est sa vocation quand on a 20 ans, c'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est pour ça, moi, je pense que dans notre pays, quelle que soit la situation, quand tu es au cégep ou au début de l'université, la majorité des flots, j'aime dire les flots parce que je les aime comme un fou, ont le devoir de sacrer leur camp pendant un an pour aller planter des arbres dans l'Ouest, ou bien d'aller se promener à Paris s'ils peuvent. Puis si on peut assez de sous, là, ben, qu'ils fassent du pouce puis qu'ils s'en aillent à Barber, là, ben, en Alaska. Là. Mais je veux dire, le fait de voyager permet de prendre contact avec les possibilités de sa vocation intérieure. Mais c'est pas simple de savoir quelle est sa vocation.
Oui, puis j'imagine que cette ouverture-là, si je repense aux jeunes gens d'Asie qui arrivaient en 90 pour la première fois dans le Grand Nord, d'avoir une capacité de se mettre en déséquilibre, d'accepter d'être en déséquilibre sur le plan culturel, voire même, j'imagine, sur le plan du soin, ça vous a aidé à mieux vous approprier cette expérience-là aussi, puis à mieux trouver vos repères à l'intérieur d'un moment qui devait être quand même assez vertigineux au départ, là, quand on se retrouve dans cette réalité-là.
C'est intéressant que vous disiez déséquilibre. C'est certain qu'il y a des limites à être déséquilibré. Il y a des limites à être un irrationnel complètement psychotique qui dit n'importe quoi. Mais l'idée d'équilibre total et de connaissance totale que propose la technoscience triomphante, comme le monde de l'intelligence artificielle qui propose très sérieusement que c'est des robots bientôt qui vont faire des diagnostics, me laisse pantois. Et il faut croire à l'art de rencontrer. Puis en plus, ben là, ce qui est certain, moi, une de mes étudiantes que j'ai eue quand elle avait 19 ans, c'est Vanessa Yunsi, là, qui est psychiatre, qui vient d'écrire un essai qui s'appelle « Soigner, écrire », qui a publié « Soigner, aimer », et qui dit bien que la technoscience, malgré toutes ses qualités, en 2024, peut à peu près rien pour les maladies psychiatriques. C'est qu'il ne faut jamais oublier ça. Donc, le déséquilibre comme soignant, jusqu'à un certain point, est nécessaire pour saisir le déséquilibre qui maltraite l'autre. Mais vous me suivez. Je ne suis pas en train de dire que face à un psychotique, il faut être psychotique soi-même. Il y a des limites. Mais il y a quelque chose de fascinant. En fait, je pense, moi, que plus que jamais, il faut croire à la valeur de la parole artistique, de l'exercice de l'art, que ce soit en littérature ou en peinture ou en théâtre ou en musique. Parce que sans cette foi profonde en l'art, la science a tendance à prendre à devenir... Les humains ont tendance à utiliser la science de façon démesurée. Mais une fois que j'ai dit ça, jamais de ma vie je n'irai la valeur du taco pour faire un diagnostic de tumeur cérébrale. Ça serait idiot. Moi, j'ai commencé à pratiquer, par exemple, il n'y avait même pas d'échographie. C'est-tu correct? Je me souviens d'avoir vu une femme accoucher, puis une fois que le premier bébé est sorti, son mari était là, il y avait déjà 3 enfants, puis il dit « Ouf! » Pour moi, il y en a un autre. Ça, c'est... Je parle comme un vieillard, là. Ça, c'était au début de ma pratique. Mais en tout cas, c'est pas l'idéal. C'est beaucoup mieux d'avoir une échographie pour savoir que tu as des jumeaux ou des triplets. Mais est-ce que ça change quelque chose? La façon artistique d'aborder les humains et le soin est pas moins importante que la façon scientifique. Donc, un soignant, quel qu'il soit, là, un psychologue, un travailleur social, un médecin, doit absolument tenir compte de l'art de rencontrer comme de l'art de parler, comme l'art de regarder. Sinon, la seule science robotique est dangereuse. Depuis 6 ans, je fais des camps médicaux de brousse comme j'en ai fait un cet été au nord de Bécomo, c'est dirigé par un urgentologue qui a créé ça, là, David Paris. Et pendant 10 jours, il y a 24 étudiants de troisième année en médecine qui restent dans des petites cabanes, puis on fait des simulations, ils apprennent l'art de traiter dans le bois, mais ils n'ont pas accès au web, pas de téléphone portable, pas d'ordi. 10 jours, la qualité des liens qui se nouent est faramineuse. J'ai jamais vu ça. C'est des vrais camps scouts, mais autour de comment utiliser l'adrénaline quand tu te meurs en choc anaphylactique.
Alors, en terminant, il y a une question, Jean-Désy, que l'on pose à tous nos internats. Alors, avec qui prendriez-vous rendez-vous, mort ou vivant?
Ben ça, par exemple, mort ou vivant, je dirais d'emblée avec un prêtre ou un chaman ou un moine ou un... Ouais, je prendrais rendez-vous avec ce personnage-là. Parce que plus que mon corps, c'est mon âme qui m'importe.
Jean-Désy, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait grand plaisir. Excellente question. Merci beaucoup de votre présence.
Cette balado était présentée par la Faculté de médecine de l'Université Laval en collaboration avec la clinique du PEPS, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec.